Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses.
Un nouvel épisode des Mystères de l'OST. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Mystères de l'OST. Bonjour Sissi.
Salut Birt.
Et aujourd'hui pour cet épisode 10, c'est un épisode sans thématique. Un gloobie-boulga, un jukebox.
Exactement, un jukebox, ouais. C'est le bon mot.
Et Sissi, c'est toi qui va commencer cet épisode.
Oui, et je commence ce podcast avec du lourd, mais ça fait un moment que je voulais passer la musique que vous allez entendre, et maintenant que monsieur le compositeur est décédé il y a quelques mois, c'est le moment de faire un petit hommage. Je ne vous en dis pas plus. Musique ultra connue donc, The Ecstasy of Gold d'Ennio Morricone sur la bande originale du Bon, la Brute et le Truand de Sergio Leone. Ce film de 1966 est la conclusion de la trilogie du dollar et fait partie des plus célèbres westerns de l'histoire du cinéma. Il est d'ailleurs considéré comme la quintessence du style western spaghetti. Regardé pour la première fois cette semaine, je vais essayer d'expliquer ce film de 178 minutes version longue, sans trop spoiler pour ceux qui ne l'auraient toujours pas vu. On découvre Joe, aka Blondin, et Tuco, un duo profitant de la société pour se faire quelques dollars. Tuco est régulièrement remis à la justice par Blondin, qui récupère ainsi la prime. Mais celui-ci permet à Tuco d'échapper à la potence, partageant ensuite la récompense. Ce duo pas si parfait va croiser le chemin de Sentenza, sur la route menant à un coffre rempli de pièces d'or. Le tout sur fond de guerre de sécession. Voilà en résumé, ultra résumé.
Très bien résumé.
Pour ce qui est des musiques, nous savons tous que sans sa fameuse bande originale, ce film n'aurait pas eu le même succès. C'est d'ailleurs ce qu'affirme Sergio Leone concernant sa filmographie. La BO fut en grande partie écrite avant le début du tournage. L'avantage, c'est que Sergio Leone a pu faire jouer une partie de la musique sur le plateau, permettant ainsi de créer une atmosphère et de permettre aux acteurs de se mettre dans la peau de leur personnage. Méthode d'ailleurs qui plaisait beaucoup à Clint Eastwood. Composée donc par Ennio Morricone, cette BO est l'un de ses plus gros succès, la plupart venant de ses collaborations avec Sergio Leone. Entre autres, Pour une poignée de dollars, Il était une fois dans l'Ouest, Il était une fois en Amérique. Il a également composé pour d'autres films tels que Le Professionnel, Les Incorruptibles et même Les 8 salopards de Quentin Tarantino. Ayant déjà parlé plusieurs fois de ce grand monsieur, je vais m'arrêter là en profitant encore une fois de saluer l'œuvre du maestro. Et à toi la main, Birf.
On va continuer avec un autre hommage, si je peux dire, hommage aux Daft Punk qui se sont séparés récemment, hashtag rubrique potin. On écoute Dearest sur la bande originale de Tron l'Héritage. Sam Flynn, 27 ans, est le fils expert en technologie de Kevin Flynn, joué par Jeff Bridges qui reprend son rôle qu'il avait laissé depuis 1982. Et il aurait dû le lâcher, hein, ce rôle. Cherchant à percer le mystère de la disparition de son père, il se retrouve aspiré dans ce monde de programmes redoutables et de jeux mortels où vit son père depuis 25 ans. Wow. Franchement, je n'ai même pas envie d'en dire plus. C'est de la merde, ce film. Désolé si vous êtes fan, hein. Et si c'est le cas, faut aller consulter. Autant Tron de 1982, je comprends l'impact du film, l'impact sur le cinéma en soi. Alors évidemment, le film original a mal vieilli, mais perso, même le premier film, je trouve ça mou. Alors la suite, franchement, économisez-vous les 2h05, hein. Mais, la BO du film est vraiment bien, et elle est composée par les Daft Punk. Bon, les Daft Punk, on connaît, hein, tout le monde connaît, mais faut pas oublier qu'ils ont fait que 4 albums studio entre 1997 et 2013, quelques albums live et une seule participation à un film, Tron l'Héritage donc. Et j'aime me dire que c'est pour ça que cette OST est ouf. Quand sur plus de 20 ans de carrière, tu arrives à choper un duo qui a sorti que 4 albums studio, bah t'as pêché du lourd. J'ai quand même l'impression qu'ils y ont mis du leur. Je pense que le sujet leur tenait à cœur et ouais, j'adore cette OST. Pas comme le film, qui je le rappelle est nul à chier.
Donc attends, pour être sûr que tout le monde ait compris, tu détestes Tron l'Héritage, c'est ça?
Non, en fait, j'adore. Non, c'est nul à chier. Et même Tron, c'est pas terrible. Oh là là, unpopular opinion, non.
Et on va rester dans la SF avec tout de suite You Have No Idea sur Elysium.
et on enchaîne des films de merde.
Film donc de science-fiction de 2013 réalisé par Neil Blomkamp, nous raconte l'histoire pas si exceptionnelle de la Terre en 2154, surpeuplée et dévastée, où la violence et les inégalités ont fait prendre conscience aux riches qu'il était temps de se réfugier dans une station spatiale super high-tech et luxueuse, Elysium. On y retrouve Matt Damon, qui, comme bien souvent, se fout quand même dans des situations pas possibles, est irradié au cours d'une manipulation dans l'usine où il travaille. Il cherche alors à se rendre sur Elysium afin d'y être soigné. Donc un film pas extraordinaire, mais regardable, notamment grâce à un casting plutôt sympa avec Jodie Foster, William Fichtner, Diego Luna et Charlotte Copley. On doit l'OST à un petit nouveau dans ce podcast, Ryan Amon. Et pour cause, sa filmographie n'est pas encore très garnie. Il est principalement connu pour ses compositions additionnelles pour des émissions de télé américaines et pour quelques participations sur des BO de jeux vidéo. Cependant, en 2011, Ryan Amon est contacté par le réalisateur pour s'occuper de l'OST d'Elysium. Pour celle-ci, il a notamment expérimenté pas mal pour incorporer des appels de singes et de babouins, des bourdonnements de moustiques, mais également des chants de gorge d'un peuple mongolien.
On va rester dans la science-fiction et avec Neil Blomkamp, avec un film que j'adore tout particulièrement, District 9, avec la musique Winkers is Still Running. Dans ce film, un vaisseau extraterrestre se stabilise un jour au-dessus de Johannesburg. Les autorités sud-africaines décident de forcer l'entrée du vaisseau et ils y découvrent une population d'un million d'extraterrestres désorganisés et affamés. 20 ans plus tard, les extraterrestres réfugiés sur la Terre sont un problème social et politique explosif. Ils sont parqués dans le District 9, un gigantesque bidonville, et leur destin est entre les mains d'une multinationale, le MNU, chargée par le gouvernement de déplacer cette population encombrante. Le MNU s'intéresse en fait à l'extraordinaire armement issu du vaisseau qui ne fonctionne que lorsqu'il est aux mains des extraterrestres. Vicus, l'agent de terrain du MNU chargé de superviser leur évacuation vers un autre camp, inhale une mystérieuse substance qui se met à transformer progressivement son corps et le rend de plus en plus semblable à un extraterrestre qu'on appelle dans le film les crevettes. Cet homme, qui permettrait alors de déchiffrer et utiliser la technologie alien, devient l'individu le plus recherché autant par le MNU que par d'autres mafias. Il ne lui reste qu'un seul endroit où se cacher, le District 9. Un nouveau compositeur fait son entrée dans notre podcast, Clinton Shorter, canadien, né en 1971. Shorter a travaillé sur plus de 300 compositions pour des épisodes de séries télévisées, des films indépendants, téléfilms, mais également des publicités. Alors malgré son palmarès immense, j'avoue que je ne le connaissais pas du tout. En regardant sa filmo, j'ai saisi pourquoi. Il a fait des compos pour des films indépendants, courts-métrages et pour la télé. Mais parmi ses arrangements pour des films moins intimes, on lui doit les musiques de Japlou, oui, la biographie sur le cheval éponyme, Two Guns, ou encore le très médiocre Pompéi. Niveau série, on lui doit la bande originale de The Expanse, Colony, putain mais qui c'est qui se souvient de Colony avec Josh Holloway, c'est le Sawyer de Lost, et tout récemment Tribes of Europa sur Netflix par les créateurs de Dark. Fun fact, absolument pas fun mais un fact quand même, il a également créé thème des Jeux Olympiques de 2004 à Athènes. Voilà.
Nice. Changement de style, d'époque et d'ambiance avec tout de suite Belle Amie. Pour le film Belle Amie. Bon, n'étant pas hyper intéressé par ce drama adapté d'un roman de Maupassant, je m'en réfère au synopsis gracieusement proposé par Wikipédia pour parler de ce film de 2012. À la fin du 19e siècle, à Paris, Georges Duroy, aka Robert Pattinson, rencontre un ancien camarade de l'armée devenu rédacteur politique au journal La Vie Française. Celui-ci lui permet de rencontrer la riche et influente Clotilde de Marelle. Déterminée à se hisser au sommet d'une société où sexe rime avec pouvoir, Georges enchaîne les conquêtes, usant aussi bien de son charme que de son intelligence. Voilà. Alors, si j'ai voulu passer une musique d'une OST dont je ne connais pas le film, c'est parce que j'ai adoré l'écouter. Et pour pouvoir parler d'un compositeur inconnu à ce jour dans les mystères de l'OST, ou plutôt d'une compositrice, puisqu'il s'agit de Rachel Portman. Cette Britannique a été la première femme à remporter un Oscar de la meilleure musique de film. C'était en 1997 pour Emma l'entremetteuse. On dirait un film...
Oui. Ouais.
Connue pour son style opéra, elle composa plusieurs œuvres de concert et est à l'origine des BO de nombreuses séries télé et films tels que Le Chocolat, La Vérité sur Charlie, Le Sourire de Mona Lisa, Oliver Twist et Belle Amie.
On va rester avec Robert Pattinson pour la musique Freeport pour le film Tenet. Alors, Tenet, c'est le dernier film en date de Christopher Nolan et...
Tu crois pas que ça va être chaud à l'envers, là, Birf?
Ouais, t'as raison. Alors, Tenet, c'est... Bon, alors, John David Washington, bon, ben voilà. Il se retrouve mêlé une histoire d'espionnage international surréel où la notion du temps est super chum sa mère. Un grand méchant, via une machine, je crois, peut inverser la courbe du temps pour foutre la merde au niveau mondial, j'imagine. Alors, inverser la courbe du temps, c'est pas genre voyager dans le passé, c'est genre vraiment l'inverser. Non, franchement, je ne sais pas comment décrire ce film d'action avec Robert Pattinson, à part que parfois, tout est inversé. Mais Michael Caine essaye de l'expliquer dans le film, en gros, pour te dire « T'inquiète, frère, tu vas rien comprendre, mais ça va aller. » Alors bref, hein, j'avoue que j'ai pas tout compris. Mais j'avoue aussi que j'ai pas trop aimé le film pour ça. Ouais, t'as des plans super sympas, mais bon, voilà. On va parler de l'OST, voulez-vous ? On a déjà parlé de Ludwig Göransson il n'y a pas longtemps pour l'OST de Black Panther. Ce Suédois, sans déconner vu son nom, a également réalisé les OST des Miller, Une famille en herbe, qu'on aime bien avec Sissi. Creed 1 et 2, Venom, ou récemment à la bande-son de The Mandalorian. Nolan est habitué à travailler avec Hans Zimmer, mais pour Tenet, il n'était pas dispo, car il travaillait pour un film que j'attends beaucoup, d'un réalisateur que j'adore énormément. Dune, de Denis Villeneuve. Dune qu'on attend toujours, hein, contre Covid. D'ailleurs, fait intéressant, pour l'OST de Tenet, et à cause de la crise sanitaire, les musiciens ont enregistré depuis chez eux. Pour pousser le vice jusqu'au bout, Ludwig a composé des mélodies rétrogrades pour cette OST, à savoir donc des mélodies que l'on peut également appeler récurrentes, qui si on les lit sur une portée de gauche à droite, correspondent au même enchaînement de notes que si on les lisait de droite à gauche. Il y a plusieurs types de musique rétrograde. Pour un rétrograde parfait, le rythme et les hauteurs sont inversés également. Mais là, ça devient beaucoup trop obscur pour moi, donc on va s'arrêter là. Hein.
Et en parlant de compte Covid, nous avons donc dû troquer les sorties ciné contre les films Netflix. Donc tout de suite, Get Some Hair sur la bande originale de I Care A Lot. On a donc regardé à sa sortie Netflix ce film qui était plein de promesses, mais comme bien souvent, qui dit film Netflix dit déception. Cependant, ayant été agréablement surpris par les musiques, j'ai décidé de l'inclure dans ce podcast. Sur des faux airs de Gone Girl, on retrouve Rosamund Pike, jouant une tutrice spécialisée dans les personnes âgées fortunées. À leurs dépens, elle profite d'une vie de luxe. Mais tout ne se passera pas comme prévu avec sa nouvelle victime qui s'avère avoir de dangereux secrets. L'OST nous vient de Mark Canham, encore un nouvel arrivant ici, peu connu malgré une filmographie plutôt sympa, avec notamment La disparition d'Alice Creed, Close, Burn Burn Burn, When the Light Went Out et Final Girl. Mark Canham et le réalisateur ont travaillé en étroite collaboration pour que la partition colle au thème principal du film et sur le concept de cupidité, où les gens sont prêts à tout pour atteindre le résultat souhaité, et ça à n'importe quel prix. L'OST est donc en grande partie dirigée par un synthé. En début de film, on peut entendre des sons plutôt soyeux et ludiques, permettant de cacher des sons plus inconfortables et imparfaits. Et au fur et à mesure que l'histoire se déroule, on se retrouve avec des sons moins prévisibles, reflétant ainsi la mauvaise réalité de la situation, dirigeant ainsi les projecteurs sur cette caractéristique désagréable qu'est la condition humaine.
Bon, cette fois-ci c'est moi qui vais casser l'ambiance avec une musique extrêmement pesante, avec la musique Future Markets, venant tout droit du film There We Be Blood. There Will Be Blood est un film de Paul Thomas Anderson, Magnolia, The Master, Phantom Thread, inspiré d'un livre nommé Oil. Le film raconte la vie de Daniel Plainview, Daniel Day-Lewis, quand il entend parler d'une petite ville de Californie où l'on dit qu'un océan de pétrole coulerait littéralement du sol. Il décide d'aller tenter sa chance et part avec son fils HW à Little Boston. Dans cet endroit perdu où chacun se bat pour subsister et où l'unique distraction est l'église animée par le charismatique prêtre Ellie Sunday, joué par un incroyable Paul Dano, Plainview et son fils voient le sort leur sourire. Même si le pétrole comble leurs attentes et fait leur fortune, plus rien ne sera comme avant. Les tensions s'intensifient, les conflits éclatent et les valeurs telles que l'amour, l'espoir, les croyances, l'ambition et même les liens entre père et fils sont mis en péril par la corruption, la trahison et le pétrole. Le film est super pesant, mais principalement par sa musique en fait. Vous l'avez entendu à l'instant, c'est quand même assez angoissant comme OST. On doit l'OST à Johnny Greenwood, qui fait également sa première apparition dans notre podcast. Musicien multi-instrumentaliste, compositeur et arrangeur britannique né en 1971, et membre actif de Radiohead. Radiohead, dont Paul Thomas Anderson est fan. Il avait été impressionné par la bande-son que Greenwood avait fait pour un documentaire nommé Body Sound. Tout naturellement, il le contacta, et après des doutes, Greenwood finit par pondre cet OST en 3 semaines, après avoir reçu une copie du film. Donc on est sur l'inverse du Bon, la brute et le truand, où ici la musique a été composée après le tournage du film. Les deux hommes contribueront encore sur d'autres films tels que The Master, Inherent Vice ou encore Phantom Thread.
Bon, après avoir plombé l'ambiance, je vais me permettre de remettre un peu de joie dans ce podcast avec tout de suite le thème principal de Chicken Run. Hype de ouf après avoir écouté cette musique, quoi. Je l'adore. Bref, c'est en voyant l'annonce d'une future suite que j'ai eu envie dernièrement de revoir Chicken Run, ou Poulet en fuite, comme diraient nos amis québécois. Chicken Run est un film d'animation en volume, en pâte à modeler stop motion, quoi, sorti dans les années 2000. L'histoire nous emmène en Angleterre, dans la ferme de Madame Tweedy, où des poules surveillées et enfermées jour et nuit multiplie les tentatives d'évasion, toutes plus foireuses les unes que les autres. Ginger, Babette, Bernadette, Poulard et les autres vont faire la rencontre du coq-boy Rocky, qui va peut-être leur permettre de changer les choses et éviter ainsi de finir en tourte. Je tiens à souligner que le doublage français est juste incroyable, principalement le deuxième doublage, qui met en scène les voix de Valérie Lemercier, Gérard Depardieu, Josiane Balasco et Claude Pieplus. Et pour un film d'animation version Wallace et Gromit, l'OST envoie du lourd, et est lié à de grands noms, John Powell, Harry Gregson-Williams, et en additionnel, Steve Jablonski et Geoff Zanelli. Ne pouvant rien dire de nouveau sur eux, je vais vous parler un peu plus de cette magnifique BO. Puisqu'on sent qu'ils ont pris plaisir à la réaliser. Le thème principal est basé sur les traditionnelles musiques de films de guerre britanniques, notamment apportées par les cuivres. Pour le reste, on peut entendre différents styles, différents tempos, permettant de rythmer le film. Et ce qui fait tout le charme et la réussite de cette OST, c'est la présence de nombreux instruments inattendus, tels que des kazoos, des cymbales, des harmonicas, de la cornemuse et même des chopsoki de Kung Fu. En gros, des sonorités présentes dans les films de Kung Fu. Le tout accompagné par du jazz, des percussions et des chœurs sifflotants à tue-tête.
Et pour terminer ce podcast, on va rester sur un film d'animation avec le second film des studios Pixar. Je parle de Mille et une pattes, ou Une vie de bestiole au Québec, avec la musique Flick Leaves. Mille et une pattes, c'est l'histoire de Flick, Tilt en VF, qui a détruit la récolte de la saison de sa fourmilière. Cette boulette n'est pas pour plaire à Le Borgne, doublé en français par Dominique Collignon-Morin, la voix récurrente de Nicolas Cage, hashtag cœur avec les mains, venu racketter les fourmis avec sa bande de sauterelles. Contraint de partir sans récolte, l'affreux insecte promet de revenir à l'automne collecter le double de sa ration habituelle. Pour se faire pardonner, Tilt propose de partir à la recherche de mercenaires pour lutter contre l'envahisseur, dont une coccinelle à la voix de Bruce Willis en français, feu Patrick Poivet. On doit la musique à Randy Newman, américain né en 1943, à qui on doit plus de 25 compositions pour le cinéma et parfois la télévision. À ce jour, 8 films Disney-Pixar portent sa signature musicale. Toy Story, Mille et une pattes, Toy Story 2, Monstres et compagnie, Cars, Toy Story 3, Monstres Academy et Toy Story 4. Récemment, il a également composé la bande-son de Marriage Story pour Netflix, avec Scarlett Johansson, ce qui ne me déplaît pas, et Adam Driver, pour ne pas déplaire à Sissi.
Adam Driver. Voici ce qui conclut cet épisode 10 des Mystères de l'OST. On vous dit à dans 2 mois pour un épisode 11 qui sera monstrueux. À très bientôt! Bye bye Birf!
Salut!
Ne quittez pas tout de suite l'épisode, il y a une petite surprise à la fin du générique, signé Metallica. Thank you.